cours d'économie.
Bonsoir à toutes et à tous. Flambée des prix des produits pétroliers à Kamituga dans le territoire de Muyinga au sud Kivu, le prix du litre d'essence est passé de 5 000 à plus de 12 000 francs congolais. Et à Bukavu, la coopérative d'épargne et de crédit Chai constate que les retraits ont galopé et les dépôts ont fortement diminué pendant cette période de campagne électorale. À Kinshasa, nous allons parler des femmes entrepreneurs qui étaient hier mercredi à l'école du savoir. Elles ont appris, entre autres, le choix de la forme juridique pour leur entreprise, les avantages et inconvénients qui vont avec. Voilà pour le titre. Bienvenue à toutes et à tous. Ouvrons Écho d'économie par la province du Sud Kivu, où nous allons parler de la hausse vertigineuse du prix des produits pétroliers qui est signalée à Kamituga dans le territoire de Muyinga. Le prix du litre d'essence est passé de 5 000 à 12, voire 15 000 francs congolais auprès des détaillants communément appelés Kadhafi. Des sources locales expliquent cette hausse de prix par la difficulté d'accès à Kamituga, dont l'état de la route s'est de plus en plus dégradé. Outre les produits pétroliers, les prix de plusieurs produits de première nécessité ont aussi galopé sur le marché local. Les habitants de Kamituga ne savent plus à quel sein se vouer face au coût de la vie qui devient de plus en plus cher. Écoutons ce cri de cœur lancé par Ombeni Masoudi. Cet habitant de Kamituga est joint sur place par Cynthia Bachizi Nabizana.
Actuellement, le carburant se négocie à 15 000 francs congolais. C'est depuis avant-hier que le prix a changé. Récemment, on l'a acheté à 4 000, parfois 5 000, mais avant-hier, on a été surpris qu'un litre du carburant se négocie à 15 000 francs. C'est parce que la route nationale numéro 2 est vraiment délabrée. Il y a vraiment le délabrement très, 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 très avancé. Depuis le mois de novembre, octobre, novembre jusqu'à décembre, il y a probablement des passages. Il n'y a que les motos qui amènent les marchandises, même les voitures, les bus, même les grands camions. Parce que là-bas, c'est vraiment trop difficile. Un gobelet de haricots qui s'achetait à 1500, 2000 francs, aujourd'hui, ça s'achetait à 4500. Un gobelet du riz s'achète aujourd'hui à 4000, à 4500 francs. Un kilo de sucre s'achète actuellement à 8000 francs. Parfois 9 000 francs. Ce qui s'achetait à 3 500 aujourd'hui, c'est 9 000 francs, 8 000 francs. Une seule bouteille de Promis qui s'achetait à 3 000 francs, aujourd'hui, ça s'achetait à 9 000 francs. Par chance, vous pouvez trouver ça à 8 000 francs. Mais c'est à 9 000 francs. Il y a d'autres qui dépassent même, qui commencent même à vendre ça à 10 000 francs.
Sud Kivu encore, la campagne électorale a impacté directement ou indirectement la trésorerie des institutions des microfinances à Bukavu. La coopérative d'épargne et de crédit Chai, par exemple, a connu un afflux de retrait de fonds de ses caisses par ses épargnants. La COPEC Chai dit que les dépôts ont diminué face aux retraits qui ont galopé pendant cette période électorale. C'est le constat de Richard Kalalou, chargé des ressources humaines et communicateur à la coopérative d'épargne et de crédit Chai, que je vous convie d'écouter au micro de Jean Kassamé.
Nous avons beaucoup de membres, plusieurs de nos membres aussi sont candidats, et nous avons observé pendant les 3 mois, beaucoup de retraits dans les comptes. Croyons que certains candidats ou certains amis ou frères des candidats sont passés pour retirer leurs épargnes, pour qu'ils puissent en servir soit pour les campagnes, soit pour l'impression des photos, des ceci ou cela, soit pour financer les voyages, pour aller ici et là. Il y a ceux-là qui sont dans les territoires, il y a ceux-là qui sont candidats dans certains villages, et pour nous, nous avons constaté qu'il y a eu un impact négatif. Pour ceux-là qui font les affaires, nous avons aussi constaté que les épargnes ont diminué et que l'argent qui devait venir épargner, il les a utilisés ou ils les ont utilisés pour les activités des campagnes électorales. Et pour nous, comme il y a eu diminution des épargnes, comme il y a eu aussi beaucoup de retraits, pour nous ça a été un impact négatif.
Est-ce qu'il n'y a pas eu de demande de crédit? Parce que s'il y a eu beaucoup de demandes de crédit, cela suppose que la coopérative doit avoir fait de bonnes affaires, parce que le crédit suppose des remboursements avec intérêt.
Plusieurs de nos membres sont des petits épargnants et des commerçants. Tous ceux-là qui ont des gros moyens, les politiciens, les autres, ne viennent pas déposer leurs épargnes à la COPEC Chai.
Retournons à Kinshasa. Quel statut juridique pour son entreprise? Quels sont les critères de choix du statut pour son entreprise? Aussi, quelles sont les subtilités de chaque type d'entreprise et quelles sont les procédures pour créer ou formaliser son entreprise déjà opérationnelle? En tout cas, les femmes entrepreneurs de la ville de Kinshasa étaient hier mercredi à l'école du savoir à l'initiative de l'AFECO Entendé, association des femmes entrepreneurs du Congo. Les experts de l'ANADEC, Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, ont outillé une cinquantaine de femmes réunies à cet effet. Écoutons Madame Betty Moulanga expliquer pourquoi il faut maîtriser toutes ces questions quand on est entrepreneur. Elle le dit au micro de Jocelyne Moussa Opondé.
Quand on commence l'entrepreneuriat, souvent on commence avec des informations dans l'État. Comme ça, bon, j'ai une idée, je vais créer mon entreprise, j'ouvre mon entreprise. Après, demain, je pleure, j'écris à la tracasserie et tout. Alors, c'est important d'informer les femmes entrepreneurs, surtout dans notre cas, pour qu'on sache où on met notre pied. Parce que il y a une différence entre un établissement et une société. Il y a une différence entre une sarle et une sarlue. Une société, c'est une personne morale. Un établissement, c'est une personne physique, rien que par l'appellation. Dans un établissement, c'est une personne physique. Donc, vous êtes confondu avec votre entreprise qui est une personne physique. Mais une société, c'est une personne morale. Vous êtes séparé. Ça veut dire que quand vous contractez des dettes, vous avez des problèmes personnels, on ne peut pas attaquer vos biens de la société. Mais on va s'en prendre au bien de la personne physique. Mais quand vous êtes un établissement, parce que tout le monde est dans l'établissement, tout le monde aime avoir l'établissement parce que on trouve que c'est moins de tracasseries. Oui, mais en cas de problème, maintenant, c'est là qu'on se rend compte, j'aurais dû être une société.
Accéder à son compte bancaire, effectuer des transactions et obtenir des informations à tout moment via son smartphone ou son ordinateur. De plus en plus, des banques opérationnelles en RDC proposent à leurs clients des produits digitaux. Ces produits constituent un gain de temps pour les clients et une belle opportunité pour l'inclusion financière. Jocelyne Moussao nous en parle.
La banque dans ton téléphone, Illico Cash, Netbank, MyBOA et tant d'autres, une multitude de services financiers sont aujourd'hui accessibles depuis n'importe quel téléphone, smartphone ou pas. Aujourd'hui, il est possible, même sans se déplacer pour le siège ou une agence de sa banque, d'opérer plusieurs opérations bancaires, que ce soit le virement de son compte vers un autre, le virement de son compte vers une autre banque au pays ou à l'étranger, envoyer de l'argent sur un porte-monnaie électronique, payer une facture, payer les taxes, acheter des crédits téléphoniques, retirer de l'argent et bien d'autres. L'interconnexion entre les banques et les services financiers des sociétés de télécommunications, dit Mobile Money, rend encore plus facile l'accès à ces services, même à ceux qui n'ont pas de smartphone. Tous ces produits rendent les clients plus autonomes et favorisent l'extension des produits bancaires, même dans les milieux les plus reculés.
Écho d'économie. Et pour parler justement de l'impact de la digitalisation bancaire sur l'inclusion financière en République démocratique du Congo, Écho d'économie y reçoit pour en parler Jean-Claude Tetika. Il est le directeur général du FPM, Fonds pour l'inclusion financière en RDC. Il s'entretient justement avec Jocelyne Moussa Opondé.
Monsieur Jean-Claude Tetika, bonjour.
Bonjour madame.
De plus en plus, les banques proposent des services digitaux, des opérations que l'on peut faire à partir de son téléphone, de son ordinateur, mais pour lesquelles il fallait se déplacer avant. Quelle analyse faites-vous de l'avènement de tous ces produits que nous proposent les banques aujourd'hui?
Oui, alors, donc, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que l'avènement du digital dans le secteur bancaire ou de manière générale dans le secteur financier, c'est un événement majeur. Parce que rappelez-vous que le pays est grand aujourd'hui. Nous avons plus de 100 millions de population, mais le niveau de la pénétration de banques ou des institutions de microfinance est très très faible, compte tenu des problèmes des infrastructures, de l'éparpillement, et on a un pays continent. Donc, et penser simplement que le pays peut se développer, en tout cas du point de vue financier, rien que par le modèle traditionnel de banque, cela n'est pas possible. Et donc, le digital est venu, donner une autre dimension extrêmement importante pour pouvoir étendre les services financiers dans l'ensemble du pays. Donc c'est quelque chose de très 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 important.
Et qu'est-ce que cette digitalisation offre, hein? Qu'est-ce que ça apporte aux clients?
Quand on parle de la digitalisation, bon, c'est un sujet extrêmement vaste et varié, hein? Alors il faut d'abord prendre la digitalisation du point de vue de produits et puis la digitalisation du point de vue des canaux de distribution. Alors, du point de vue de produits, éventuellement, comme vous l'avez dit, à l'époque, pour toute transaction bancaire, si je veux revenir peut-être pour les canons, pour toutes les transactions bancaires, il fallait venir à la banque, il fallait faire la queue, et voilà, on n'est pas non plus dans un pays où les services à la clientèle est au top. Et donc, tout cela posait des grands, grands problèmes pour distribuer. Donc, ça décourageait finalement les gens. La digitalisation a permis finalement de pouvoir utiliser les canaux modernes, son téléphone, même celui qui n'est pas smartphone, même celui qui est normal, de pouvoir transacter directement de là où on est. Ce qui a démultiplié en fait les canaux de distribution et qui a permis finalement d'atteindre des populations qui sont extrêmement éloignées du pays, sans qu'ils soient obligés finalement d'avoir en face d'eux des banques physiques ou des institutions de microfinance physiques. Donc c'est un élément multiplicateur assez important. Ça c'est du niveau des canaux de distribution, mais du point de vue de produits aussi, c'est qu'aujourd'hui vous avez des produits financiers qui vous permettent par exemple, même si vous êtes dans un territoire où il n'y a pas de banque, vous pouvez ouvrir un compte bancaire, vous pouvez faire des choses. Donc ça a permis un peu de délocaliser les banques physiques qui sont généralement concentrées dans des grandes villes vers des territoires, des cités où on ne pouvait pas l'avoir. Donc sans la digitalisation, ça aurait été très 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 difficile de pouvoir avancer sur ce domaine-là.
Monsieur Jean-Claude Tetika, merci.
Je vous remercie, madame.
Merci Jean-Claude Tetika, merci Jocelyne Moussaou et grand merci à vous chers auditeurs de nous avoir écoutés. Écho d'économie se referme, mais il est disponible sur www.radiocapi.net.